n'y avait rien, quand soudain...
Radio Primitive.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Ce soir, on va faire une émission en direct avec quelqu'un qu'on a au téléphone. Il s'appelle Nico, il est de Douarnenez. J'insiste bien à Douarnenez, puisque j'ai pu voir d'ailleurs, pour préparer cette émission, que ceux qui font des croisières appellent cette petite ville, qui est presque un village, Douarnenez. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent ça, mais bon. Alors, justement, Nico, tu m'entends ?
Oui, je t'entends bien.
D'accord. Alors, salut, tu peux un peu peut-être commencer par présenter cette ville historique qui est Douarnenez.
Alors, Douarnenez, bah, c'est vraiment la pointe du Finistère. C'est un peu, c'est Finistère Sud, c'est pas très loin de la pointe du Raz, c'est pas très loin de Quimper. La dernière station de train, c'est Quimper, quoi. Globalement, actuellement, il y a un petit peu moins de 14 000 habitants à Douarnenez. Ça fait que réduire, malgré ce qu'on entend, dont on reparlera peut-être, qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent, il y a plein de nouveaux. Dans les années 50, on était plutôt autour de 20 000.
Alors, c'est une ville historiquement qui est liée à son port et à la pêche. Et on peut le dire, rapidos, hein, mais historiquement, la pêche de la sardine et
ça.
Les conserveries. Donc, c'était une ville qui a été marquée par de très nombreuses conserveries. Tu le confirmes ?
Oui. Dans les années 1900, il me semble qu'il y avait une trentaine de conserveries, principalement très artisanales, familiales, dans Douarnenez. Après, ça s'est transformé, si je dis pas de bêtises, ça s'est transformé en 14 usines, quelque chose comme ça. Ça a embauché pas mal de monde dans la ville, principalement les femmes, parce que les hommes étaient en mer.
Ouais.
Et donc, c'est principalement la sardine, mais il y a eu aussi un peu le thon. Aujourd'hui, il y a trois conserveries qui existent encore. Chancerelle, c'est la marque connétable, Paulet, c'est la marque petit navire, et il y en a une autre, Kerbriand, qui reste une petite conserverie artisanale et familiale, quoi.
Et ouais, et donc voilà. C'est une ville qui avait, tu l'as dit, un prolétariat, on va dire, assez particulier, mais finalement avec certaines similitudes dans des ports, on va dire, identiques de Bretagne, mais avec cette culture très prolétarienne en usine, les femmes, et le prolétariat de la mer, évidemment, les sardiniers et les pêcheurs.
Ouais, c'est ça. Donc, ce que je disais, les hommes étaient en mer, les femmes, elles géraient la maison et les enfants. Et puis, il y a eu plusieurs crises de la sardine, et donc les femmes ont dû aller à la pêche. Pas à la pêche, je dis, aller à l'usine pour justement travailler le résultat de la pêche. Ouais. Et en fait, dans des conditions de travail extrêmement, extrêmement difficiles, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça dans les milieux de gauche, on est très nostalgique de tout ça, mais il y a eu deux grosses grèves au début du siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, des grèves même avant la première, il me semble, ouais. Des grèves de sardinières qui ont été victorieuses, quoi. Dans la douleur, mais qui ont été victorieuses.
Ouais, c'est ça.
Première
grève de femmes pour un salaire décent, puisque les filles, les femmes, les ouvrières étaient payées à la boîte, hein. Donc à la tâche, quoi. C'était vraiment, vraiment hard. Donc c'était une exploitation assez hardcore, et ça a donné à la fois vraiment une image et une culture et une réputation à cette ville, mais ça a aussi donné des résultats concrets, puisque c'est évidemment, là on fait l'image d'Épinal, mais c'est quand même important de le souligner, il y a un maire très emblématique de ça.
Le Flanchec.
Ouais, c'est ça, qui est issu de cette grève, qui a ouvert la mairie pendant la grève. C'est vraiment, on va dire, la deuxième partie de l'histoire glorieuse du mouvement ouvrier du début du XXe siècle, mais avec cette particularité que là, on n'est pas dans les mines et on n'est pas dans les grandes usines comme on sera pendant l'entre-deux-guerres, mais on est sur la côte et sur le secteur de la pêche, donc avec des solidarités qui se créent et des liens qui se créent, évidemment, de manière beaucoup plus rapprochée, puisque tu l'as dit, la ville n'a jamais vraiment été énorme, jamais plus de 30 000 personnes, mais bon, voilà, quand même. Et évidemment,
ouais. Ce qui est important, c'est que historiquement, l'économie de cette ville, c'est la pêche.
C'est ça.
Et ce qui aujourd'hui n'est plus le cas, parce que la pêche s'est effondrée, qu'ils essayent de sauver, jusque dans les années 80 et 90, c'était encore l'économie principale de la ville, et puis ça s'effondre au fur et à mesure. Et donc la population s'effondre en même temps, quoi, parce que les gens n'ont plus de boulot et sont
voyants. Ils partent. Et oui, alors pour ceux que ça intéresserait de parler de la question halieutique, ouais, ça y est, je l'ai placé. On les invite à aller rechercher une excellente émission qu'on avait fait avec un de tes camarades sur les modifications du secteur de la pêche avec ces grands bateaux, notamment de grandes boîtes néerlandaises et ou anglaises, qui avaient éclaté en lien évidemment avec les normes européennes des ressources halieutiques, explosé ce secteur et ce marché, et comment aussi ce secteur et ce marché étaient devenus de plus en plus financiarisés, évidemment.
Voilà.
Le patron pêcheur de base avec ses deux employés et sa famille peut pas lutter, quoi.
Peut pas rivaliser, c'est clair.
Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi quand t'as une économie de la pêche qui s'effondre, qui s'effrite et qui crève, donc tu l'as dit, des jeunes qui partent, des vieux qui restent.
Oui, et puis c'est vraiment comme dans tout lieu qui vit que sur une industrie très précise, quand ça s'effondre, en fait, les gens sont au chômage, les gens sont dans la misère, et puis faut trouver des solutions alternatives. Et là, on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas dans un gros bassin d'emploi, on est isolé au fin fond de la Bretagne, et donc, faut trouver des solutions autres pour essayer de subsister. Pour rester sur les conserveries, elles tournent toujours. Elles sont plus dans le centre-ville, elles sont en périphérie. Mais globalement, la grande majorité du poisson qui bien, mais les sardines ne sont plus pêchées dans le coin. Il y a encore, je dis peut-être des bêtises, mais entre une trentaine de bateaux, des bolincheurs, comme on appelle les pêcheurs de sardines dans la baie. Il doit en rester une trentaine à peu près, et le reste de la sardine en fait vient du Maroc
pour être conditionné à Douarnenez, d'accord.
Voilà, on dit que c'est... Après, il y a aussi des usines chancerelles, enfin connétables et petits navires au Maghreb et en Espagne, mais au Portugal, mais ils gardent toujours, c'est la sardine douarnenise, quoi.
Ouais, c'est devenu une espèce de marque, quoi. Ouais,
c'est comme on parle du tourisme après, c'est aussi ça qu'ils vendent aux touristes. C'est la sardine de Douarnenez.
Ouais,
et qui est très cher. Sardine partout, quoi.
Et qui est très cher. Les gens pensent que le magasin d'usine va être moins cher que Leclerc, ce qui est faux.
Totalement.
Bon. Une des solutions, en tous les cas, qui a été proposée par les gouvernants, ou en tous les cas les administrateurs des administrés, c'est cette solution miracle qui a fait tant de bien à la Bretagne, et pas seulement ailleurs, qui s'appelle le tourisme, quoi. Donc, on va dire, quelque part, vous étiez un peu préservé parce que vous étiez, c'est pas rugueux chez vous, mais bon, ça peut l'être.
C'est surtout au bout.
C'est loin.
Faut y aller.
C'est vrai. C'est super mal desservi. Je me permets de te le signaler. Mais on a déjà vu ces phénomènes-là de folklorisation et de touristification, à l'œuvre dans toutes les Bretagnes. Un des plus bels exemples, c'est le golfe, le golfe de Morbihan, et évidemment Vannes, ceux qui ont eu le malheur de s'y arrêter en période touristique. C'est pas loin, en plus, à côté, vous avez la différence, vous avez l'Orient, c'est carrément pas du tout, c'est deux mondes complètement différents, quoi. Et tu dirais que ce phénomène de tourisme, il est apparu quand ? Si tu peux le dater, quoi.
Je sais pas si je peux le dater, mais en fait, ça fait quand même quelques années que les questions de logement, en fait, le problème du tourisme actuellement, c'est que les gens, le tourisme très individualiste, les gens veulent plus aller à l'hôtel ou aller au camping ou ce genre de choses. Ils veulent avoir leur petit appartement, et puis donc Airbnb est bien pratique pour ça. On n'est pas à Saint-Malo, on n'est pas à Concarneau, on n'est pas dans les villes auxquelles on pense quand on parle tourisme en Bretagne au premier abord. Donc on n'est pas dans ces dimensions-là, mais on observe que la proportion en fait de logements fraîchement restaurés ou dans Douarnenez, en fait, y en a quand même beaucoup. Qui sont ensuite des logements qui sont juste du logement saisonnier Airbnb ou autre qu'Airbnb d'ailleurs. J'ai pas envie de leur faire de la pub par ailleurs.
On va quand même être obligé de dire leur nom pour que les gens la location saisonnière courte durée, voilà.
C'est ça, exactement. Et puis en fait c'est un mix des deux, parce qu'en fait il y a des gens qui vont mettre un logement, qui vont séparer leur logement avec en créant un petit appartement dedans pour le mettre en logement saisonnier pour finir les fins de mois, tout simplement, ou pour vivre mettre un peu d'argent de côté pour le reste de l'année durant hors saison. Mais cela en fait d'une certaine manière, c'est un truc historique en Bretagne qui est toujours une place pour les gens de passage, quoi. Surtout à Douarnenez, surtout dans la pointe Finistère. Donc en fait, on pourrait presque dire que ça change de forme, mais ça reste un peu la culture locale. Ça le financiarise quand même, quoi, ce qui n'était pas obligatoirement le cas avant. Mais par contre, ce qui est plus gênant, c'est les gens qui rachètent un immeuble entier, qui le retapent entièrement et qui font un studio que pour les touristes, quoi.
Les jeunes ne risquent pas de se trouver un endroit pour habiter à Douarnenez.
Voilà. Donc là, actuellement, la problématique, c'est que les gens qui veulent vivre sur place, en fait, ont du mal à se loger. Des locations à l'année, il y en a vraiment peu. Il y a des locations à l'année, mais avec des bails totalement illégaux qui sont encore fureur où on doit libérer l'appartement pour les deux semaines d'été, quoi.
Ouais, enfin,
pour
ça.
Les deux mois d'été.
C'est ça, j'allais te demander. On est comme au Pays Basque, sur la côte, où, oui, d'accord, t'as le logement, mais on prend l'engagement informel, puisque c'est illégal. Tu te casses en juin, quoi.
Voilà, c'est d'accord. ça. Donc, il y a ce truc, mais il n'y a rien de spécifique à Douarnenez, en fait. C'est un peu partout pareil. Dès qu'on est sur une zone touristique, c'est pareil dans les stations de montagne, par exemple. Voilà. Après, c'est pas mon sujet. Je suis pas un spécialiste du logement, mais c'est vraiment une question problématique parce que voilà, et on trouvait rien pour se loger. Il y avait plein de trucs à vendre, et depuis le Covid, il y a plus rien non plus à vendre. C'est extrêmement compliqué de trouver des maisons. À acheter des maisons bon marché, parce que ça restait un coin où le logement, il y avait vraiment beaucoup de logements à vendre et peu à louer à l'année. Donc on pouvait, quand on avait un petit peu de moyens, acheter un truc pas très cher en se coltinant des travaux, quoi.
En s'en détant, voilà.
En s'en détant et en se coltinant des travaux. mais donc bon, après tu payes ton loyer à la banque au lieu d'un propriétaire, quoi. Donc certains préfèrent ça. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus cette possibilité-là, parce que des biens à vendre, en plus que les prix ont explosé suite à l'augmentation des prix du logement post-Covid, voilà, en plus de ça, le marché de l'immobilier est un peu saturé, il n'y a plus rien à vendre. Et donc en fait, ça pose un gros souci pour les gens qui veulent rester là à long terme, ceux qui ont des enfants, les pères... quitter le logement durant les deux mois d'été parce qu'on n'a pas trouvé d'autre, un truc plus stable, ça crée des situations qui peuvent aller jusqu'à des drames familiaux. C'est assez dramatique, quoi. Et c'est pas un phénomène anecdotique à Douarnenez. Je dirais même, enfin, ça beaucoup plus présent qu'il y a quelques années. Et encore une fois, je reste mesuré, on n'est pas à Saint-Malo où le problème est à une mesure encore plus importante, parce que Saint-Malo est une bonne partie de la ville qui est fermée l'hiver, quoi.
Tu as parlé du Covid et de la période du confinement. Il y a eu véritablement un avant-après ?
Ah ouais.
D'accord.
Oui, pas par rapport aux biens en location à l'année, parce que ça, il y en a toujours aussi peu qu'avant le Covid, mais des biens à vendre. C'est extrêmement compliqué d'en trouver, quoi.
C'est donc pas un cliché de dire que le bourgeois parisien est allé s'acheter une baraque à l'extérieur pour vivre le confinement mieux et a redécouvert quelque chose, quoi.
Alors je sais pas si c'est un cliché, moi j'ai tendance à pas dire ça parce que déjà j'ai rien contre le Parisien, parce que ici les gens ne disent pas le bourgeois parisien, ils disent c'est le Parisien, tu vois. Donc d'une certaine manière tous les Parisiens ne sont pas bourgeois, ça se saurait. Mais en fait il y a une étude qui est sortie, alors je sais plus par qui, mais la presse régionale l'a reprise pas mal. Il y a une étude récemment qui est sortie comme quoi un bon pourcentage des maisons secondaires sont détenues par des gens qui vivent déjà en Bretagne, en fait. Donc, par exemple, moi, mes voisins, ils habitent à Dinan, dans le nord-est de la Bretagne, et ils ont leur maison secondaire où ils viennent 3 semaines par an à côté de chez moi.
D'accord.
Et ils n'ont rien de parisien, ou rien de rennais, ou quoi que ce soit. C'est des gens qui habitent déjà dans une petite ville de taille moyenne de Bretagne, et qui ont la maison familiale historique dont ils ont hérité, ou je sais pas quoi. Mais ils veulent pas la vendre, quoi. Ils restent dedans juste pour se la garder 2-3 semaines par an. Et personne d'autre n'y passe le reste du temps.
Ok. Ouais, on n'est pas comme au Pays Basque, hein, pour donner un chiffre. Il y a un tiers des résidences au Pays Basque à l'intérieur des terres qui sont des résidences secondaires. Et sur ce tiers de résidences secondaires, sur ces résidences secondaires, il y en a 14% qui sont détenus par des Parisiens.
Okay.
Des Bordelais, non?
Non, 14% des Parisiens. Alors, si tu rajoutes les Bordelais, on doit taper encore plus. Mais,
c'est pareil,
ouais.
Non?
Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment...
Mais là, globalement, dans les terres, il n'y a pas beaucoup de résidences secondaires. Dans les terres, en Bretagne, dans le Finistère, il n'y a pas beaucoup de résidences secondaires. Les résidences secondaires, c'est sur les lieux touristiques, et les lieux touristiques, c'est la façade littorale, quoi.
D'accord.
D'accord. Ah, maintenant, je crois que si on t'a si on a pris contact avec toi, cher Nico, c'est pour te parler un petit peu de l'association Sémaphore et de son combat contre les navires qui débarquent dans toute la Bretagne à des prix exorbitants, puisque tu peux faire une croisière pour, j'ai regardé cet après-midi, là, 7000 euros sans problème, pour une semaine.
C'est le prix de base, c'est le prix pour les petits revenus, 7000 euros.
Pour les petits revenus, 7000 euros.
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que ce collectif Sémaphore?
Alors,
D'abord, c'est quoi un sémaphore? Parce que nous, on est des terriens, nous, donc...
le sémaphore, c'est... comment l'expliquer, le sémaphore, tiens? C'est le bâtiment qui permet d'observer le littoral, quoi.
Ouais.
C'est pas le phare, quoi, mais c'est qui permet de communiquer avec les bateaux.
Oui, c'est ça. C'est un système de communication par drapeau et par couleur avec les bateaux, mais qu'on peut reproduire de sémaphore en sémaphore.
C'est ça.
Mais à la différence du phare, c'est pas avec de la lumière.
Voilà, exactement. Tu le dis mieux que moi, t'as vu, finalement.
C'est normal, c'est pour l'intérieur.
Donc ce collectif, en fait, c'est assez simple au départ, en fait. Ça n'a pas vocation à faire... C'est juste trois personnes, dont moi, qui en fait, on voit passer un bateau en face de chez nous l'année dernière. Alors, c'est pas les premiers, quoi. Mais voilà, et en fait, il y a une des trois personnes, une des camarades, qui réagit. Premier réflexe, c'est d'écrire un texte, un peu de réaction, comme ça, qu'elle met sur un site de médias libres brestois. Moi, je tombe dessus. Et puis, la troisième camarade tombe aussi dessus. Et en fait, le réflexe qu'on a, aussi bien l'un ou l'autre, quoi, c'est de rentrer en contact avec cette personne qui a écrit, parce qu'on est touché par son texte, parce qu'on trouve que sa façon de faire est assez cool. De première réaction d'écrire quelque chose, un texte loin d'être inintéressant. Et on se met en contact et puis en fait on décide de se rencontrer. On n'a rien à voir tous les trois au premier abord, quoi. On décide de se rencontrer ponctuellement là durant fin d'été dernier et puis l'automne puis l'hiver. Et en fait on discute de est-ce qu'on est d'accord sur tel point, tel truc. On se rend compte qu'on est globalement assez d'accord, même si les raisons de départ sont pas les mêmes. Et puis on se dit bon, en fait c'est bien tout ce dont on a réfléchi, tout ce dont on discute, faudrait peut-être en faire quelque chose. Bon, la saison des bateaux de croisière arrive au printemps prochain, c'est peut-être l'occasion d'essayer de voir un peu si notre avis est aussi l'avis global des autres personnes, quoi. Donc voilà, vient l'idée dans un premier temps de faire une espèce de table ronde, d'appeler une table ronde. On fait pas du tout de com là-dessus, on fait juste du bouche à oreille, on trouve une salle et puis on se rend compte, on discute avec les personnes présentes. Sans bouche à oreille, on est entre 20 et 30, quoi. Enfin, juste en bouche à oreille, sans communication, sans passer par la presse, tout ça, on est entre 20 et 30, on est assez content parce que c'est beaucoup, le débat est très chouette. Et puis, ce qui ressort de cette table ronde, c'est de se dire, en fait, il faut pas les laisser faire, faut essayer de faire un truc pour l'arrivée du premier bateau, quoi. Voilà. Dans un premier temps, c'est comme ça que ça se lance. Et par la suite, le premier bateau, ouais, comme il faut réussir à savoir quand est-ce qu'ils arrivent, donc on fait des recherches sur Internet, sur les sites des compagnies, un travail assez fastidieux, ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que la mairie, qui est de droite, mais en fait, bon, ça change pas grand-chose, travaille avec l'Office du tourisme et l'Association des commerçants pour faire venir des bateaux de croisière depuis quelques années. Ils ont financé beaucoup de choses là-dessus. Ils ont financé une caravane pour accueillir les croisiéristes avec des prospectus. Ils ont embauché quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé dans le domaine à l'Office du tourisme. Mais par contre, la population n'a aucune info à ce sujet-là.
Alors, quand tu parles de croisière, là, quand tu parles de bateaux de croisière, c'est pas les Costa Croisière où il y a 5000 personnes, hein?
Ah non, alors c'est
un type de croisière et de croisiériste assez particulier.
Oui, là on est dans de la croisière de luxe, en fait. Donc quand on parlait de 7000 euros pour 7-10 jours, là, tout le monde se paye pas ça. C'est vraiment de la croisière de luxe. C'est sur des petits bateaux, ce qu'ils appellent des bateaux un peu, je crois c'est explorer ou expédition.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, on va être sur des bateaux qui sont relativement petits. Ça va être 6-7 ponts à 150 mètres de longueur, Et globalement, t'es entre un passager, t'es dans des proportions de un passager pour un membre d'équipage. Donc en fait, c'est vraiment du bon là, je caricature à peine quoi. Tu vois, par exemple, celui qu'on a bloqué le 6 mai, c'est 296 passagers pour 239 membres d'équipage. C'est quasiment un pour un. Donc, bah, pour comparer, là, il y a un bateau qui est passé sur Brest hier, c'est 1300 passagers, c'est déjà une taille plus au-dessus, c'est plus du charter, c'est pas du truc de luxe. Tu dois avoir 800 membres d'équipage dessus.
Ah, voilà. C'est énorme.
Voilà. Donc là, on est vraiment sur des petits bateaux. Il n'y a pas une grande profondeur en fait dans la baie, donc on ne peut pas avoir des plus gros bateaux. En plus, on est en zone de parc marin. Donc en fait, il y a aussi une législation, même si elle est fortement modifiable comme ils le souhaitent hein, là-dessus. Et puis, ça représente entre 150 et 300 passagers au max pour certains bateaux qui arrivent dans la baie. Donc c'est pas ceux qui arrivent à Marseille, à Ajaccio ou à Barcelone où t'as 1500 personnes qui un flot de personnes qui débarquent dans la ville en très peu de temps. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que bah là par exemple le bateau le Silver Wind qu'on a sur lequel on s'est mobilisé le 6 mai, dont on parlera après. C'est une filiale, en fait, il dépend d'une filiale de la Royal Caribbean Company. Et la Royal Caribbean Company, c'est elle qui a construit le Wonder of the Sea, où il y a 9000 passagers à bord. Celui qui a été fait, si je ne me trompe pas, à Saint-Nazaire, au chantier de
Saint-Nazaire, effectivement.
Voilà, d'accord. Donc en fait, c'est des grands groupes qui détiennent plusieurs filiales, et ils ont une filiale de luxe parce que c'est le truc qui marche actuellement. Ces petits bateaux-là, ils en construisent pas mal en ce moment, quoi. C'est assez impressionnant. Le Ponant, pour parler des Français, a fait une série de bateaux de cette taille-là. Il y en a 6, je crois, maintenant, où tu as 250 passagers maximum, quoi.
Bah, le Ponant, c'est au départ des gens de la marine marchande. Ça a été évidemment tout de suite racheté par François-Henri Pinault, hein. Évidemment, faut pas.
Bah, il y a eu la CMA-CGM entre deux, je crois.
Ouais, c'est ça. Et puis, pour vous donner un type d'exemple, le Ponant, c'est une association aussi avec le National Geographic, pas vidéo, hein, mais National Geographic, donc ce type de société qui va pouvoir avoir mis à disposition de la clientèle en capacité et en intérêt de se payer ce type de voyage ou de croisière. Hein, parce que vraiment, tu l'as dit, 7000 balles, on va dire, c'est vraiment du prix plancher. Hein, c'est pas rare d'atteindre les 10, 12, 15, voire plus, selon la qualité du service qu'on désire.
Oui. Voilà. Mais si tu veux ton jacuzzi dans la cabine, c'est un peu plus cher.
C'est possible. Et donc tu disais comment ça vous a été vendu si y a eu communication de la part des autorités à la fois municipales et portuaires et maritimes.
Alors non, il y a aucune communication. Okay. On sait que l'association des commerçants, via son président en fait, qui est partie prenante dans l'office du tourisme, est au courant des prévisions et des dates des bateaux prévus en passage dans la baie. Moi, j'avais été causé avec lui, un mec foncièrement très sympathique, hein. Mais il m'a pas donné les dates. Donc on a cherché un petit peu à savoir quand est-ce que serait le premier bateau. Et en faisant, en épluchant toutes les sites des compagnies de croisière, on est tombé donc sur ce bateau du 6 mai, le Silver Wind. Comme quoi nos radars ne sont pas hyper efficaces pour le moment. Il y a un autre bateau qui est passé le 30 avril d'une compagnie norvégienne, Hurtigruten, qui est une ancienne compagnie, la compagnie publique en fait qui fait les liaisons entre les différentes îles norvégiennes. Et qui, depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, peut-être plus, a créé une filiale croisière, donc justement des petits bateaux de luxe. Je crois que c'est une filiale semi-publique, Hurtigruten. Donc il y a un bateau qui est passé, il faisait un temps exécrable, ils ont fourni des parkas tout identiques à tous les passagers qui voulaient sortir, et donc il y a eu une ribambelle de gens dans le centre-ville de Douarnenez en parka maritime quoi de super matos, des trucs qui coûtent très très cher, rouge pétard, quoi. Donc ils sont pas passés inaperçus, quoi. Et bah, en fait, ça a déjà fait jaser, et je pense que ça a permis, nous, de surfer aussi sur ce passage de bateau qu'on n'avait pas prévu pour la mobilisation du 6 mai, pour la première arrivée de bateau qu'on considérait être la première arrivée de bateau, qui finalement était la deuxième, quoi.
Eh ben, tu sais quoi, ce que je te propose, c'est que on va se faire une pause, et puis pour allécher nos auditeurs, on va venir après sur justement cette réaction et cette action que vous avez menée avec le collectif Sémaphore le 6 mai. On se retrouve dans 2 minutes.
Ça marche.
À tout de
suite. Barcelona es bona si la bossa sona. La Barcelona del 16 jutges d'un jutjat que menja en fetge d'un penjat. Aquest penjat penjada té bona la imaginació per sortir-se de les escletxes que el sistema deixa.
Oui, ben on trouve Nico de Douarnenez. Justement, voilà. Tout à l'heure, je disais, j'ai été donc sur le site internet qui fait la promotion pour ces trucs de touristes. Et effectivement, c'est étonnant. Il ne parle pas de Douarnenez, il parle de Douarnenez. Je ne sais pas, c'est quand même étonnant. Ils ne connaissent vraiment rien, quoi.
Ouais, ouais, c'est un bien de consommation, en fait. La ville se transforme en bien de consommation. Qu'il l'appelle Douarnenez ou autre chose, en fait, ça revient
tout
au même,
fait.
Quoi.
Alors, raconte-nous, comment que ça s'est passé le...
Alors, on a fait juste... vu que c'est à la mode, là, actuellement, une chouette mode des casserolades, là, on s'est dit, on va surfer sur le truc. Il y avait la manif du 1er mai et tout. On a fait un petit tract gentil, disant, on vous appelle à venir souhaiter la bienvenue aux riches croisiéristes qui arrivent... le 6 mai à Douarnenez. Le 6 mai, c'est un samedi. Les bateaux, ils arrivent tôt. On appelle à 8h du mat sur le port de Douarnenez, quoi. Donc on ne s'attend pas à être des masses. En plus, il ne fait pas hyper beau. La veille, il y a une secrétaire d'État qui vient visiter je ne sais pas quel truc... en pays Bigoudin, à la Torche, là, le royaume des surfeurs. Et il y a une casserolade qui s'organise là-bas, où il y a beaucoup de monde qui vient, quoi. Donc il y a quelques copains qui parlent aussi du truc du lendemain matin à Douarnenez. Et finalement, voilà, le bateau arrive vers 7h, 7h30. Il y a deux personnes sur le quai pour accueillir avec une banderole assez sympathique. Et puis, bah, au fur et à mesure, en fait, on passe de 2, 3, 4. Ça arrive au compte-gouttes et on arrive quasiment à être 90. Entre 80 et 90, sur un petit quai, le port du Rosmeur à Douarnenez, l'ancien port de pêche. C'est un quai qui fait 3 mètres de large. Et donc, en fait, le bateau est amarré au large.
C'est lequel, Nico ? C'est celui qui est devant la capitainerie, là, l'ancienne capitainerie ?
Ouais, c'est l'ancien port
de pêche. Vous êtes 90 là-dessus ?
Ouais, sur le petit quai, ouais. Le petit quai, où ce qu'ils appellent le mur de la honte, là, où les gens vont pêcher. Ouais. Pêcher le maquereau. Ah ouais. Et entre 80 et 90, je n'ai pas les chiffres.
Oui,
hein,
oui,
pas
mais, compté, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Enfin, ça remplit.
Ouais, ça remplit assez vite. Il y a un prestataire en fait qui fait l'intermédiaire entre les compagnies de croisière et puis les bus, les municipalités, tout ça. Une entreprise dorée qui s'appelle BLB Shorex. Il y a son PDG qui est sur place pour accueillir les croisiéristes. Tu sens qu'il est un peu décontenancé parce qu'il s'attend pas du tout à ça. On les prend par surprise. Le mec devient extrêmement, nous sort sa soupe. Moi, je suis d'accord avec vos idées. On n'a pas envie que ça devienne Marseille avec des gros bateaux qui polluent et compagnie. Voilà, bon, il y a un ancien qui est présent avec nous, que moi je ne connaissais pas personnellement, qui lui coupe la parole et qui lui dit, en fait, mec, tu vas pas essayer de nous convaincre, en fait. De la même manière qu'on va pas essayer de te convaincre, tu vois. Tu sais très bien pourquoi on est là, t'as bien compris, on sait aussi pourquoi t'es là, vas-y, bon, bah, allez, dégage, quoi. Tu vois. Et en fait, le mec, il a pas trop l'habitude d'être confronté à ça, et en fait, il y a eu un petit moment de flottement parce que en fait il essaye de devenir agressif et de pousser en fait cette personne un peu âgée à en venir aux mains quoi. Tout ça avec deux gendarmes qui regardent quoi. Et donc bon, en dehors de ce petit moment de flottement, sinon c'est globalement bon enfant. Et puis le nombre de gens augmente, le bateau est amarré au large dans la baie et en fait ils déchargent les gens sur des tenders, c'est les bateaux de sauvetage en fait, de très grosse capacité qu'ils utilisent, ça les fait tourner comme ça, ils les utilisent pour débarquer les gens lors des escales où il n'y a pas d'appontement quoi. Et en fait les deux premiers tenders débarquent, il y a quasiment personne sur le quai, donc en fait les gens peuvent monter dans le bus et partent à Locronan ou à Quimper au musée quoi. Locronan c'est une ville qui est déjà un musée en elle-même.
Ouais. C'est un peu la ville du prisonnier en fait, hein. C'est une ville en papier mâché où il y a des gens qui se déguisent en breton et qui miment le fait d'être breton. Alors c'est super, ça. On peut acheter du thé breton et des livres bretons et des amulettes bretonnes, c'est ça.
Et puis, voilà. la bière bretonne.
C'est bien dégueulasse, hein. Franchement.
C'est la ville musée d'à côté, quoi, petite cité de caractère, je crois, comme on dit. Et voilà. Et donc bon, bah les gens vendent ça, en fait, ils vendent l'Opredan, ils vendent le musée de la. De Quimper, voilà. Et donc, en fait, on rate ces deux passages-là, ce qui n'est pas un drame. Ils entendent les casseroles, ils voient nos banderoles, croisières ni ici ni ailleurs. C'est des Américains, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. C'est pas un drame, c'est quand même sympa. Et puis, en fait, au moment où nous, on est un peu en mode, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend encore ? En même temps, c'est sympa, on a ramené du café, on papote. Il y a un troisième tender qui arrive avec à la louche 15-20 personnes à bord, dont un mec vraiment le cliché de l'américain, on a l'impression de voir Trump avec sa casquette, c'est assez rigolo. Et puis là en fait la motivation collective, l'émulation du moment fait que on se dit on les laisse pas passer quoi. Donc il y a un boucan d'enfer avec des casseroles, des instruments, voilà. Et les gendarmes, qui sont un petit peu plus qu'au début, ils doivent être une douzaine, essayent de frayer un chemin pour les croisiéristes, qui sont principalement des gens très âgés, quoi, donc qui marchent pas très bien, qui sont pas vraiment rassurés. Ah, c'est la musique.
C'est bon.
Qui sont pas ouvertement rassurés. Et la police, en fait, la gendarme, essaye de se frayer un chemin pour les laisser passer. Et puis en fait, y a un groupe de jeunes ultra déterminés avec une grande pancarte avec marqué « Fuck you rich people » qui décide « Non, non, vous passerez pas ». Et personne s'est désolidarisé d'elle. Et en fait, au bout d'un moment, les flics ont essayé de pousser un petit peu, de tester, mais t'es à marée basse, t'as 5 mètres de vide des deux côtés du quai, quoi. Voilà, t'as quelqu'un qui leur dit « Non, mais vous allez pas risquer de foutre faire tomber quelqu'un pour une quinzaine de riches américains, faut pas rêver. » Et là, les flics, en fait, qui sont les gendarmes de Douarnenez, qui sont pas habitués à ce genre de truc, laissent tomber et disent aux touristes de remonter sur le bateau, quoi. Et en fait, tout ça en une petite demi-heure, quoi. Et là, c'est euphorie totale, on a gagné, ils rentrent sur leur bateau, il y a une dame qui me saute quasiment au cou, c'est un truc de dingue ce que vous avez organisé, ça fait 20 ans que je fuis toutes les luttes sociales du côté de Quimper, j'ai jamais rien gagné, là, j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose, voilà. Vraiment euphorie. On avait prévu de faire un appel pour l'après-midi pour le départ du bateau. On se décide, bon, en fait, on a déjà gagné, on va se reposer, on fait rien cet après-midi. Et en fait, tu croises les gens dans la ville qui ont participé à l'action, tout le monde est euphorique, putain, c'est trop cool, on se marre, c'est trop bien. Voilà, donc ça, c'est notre vision à nous, qui est hyper grisante, qui est vraiment agréable. On est surpris, nous, parce qu'on s'attendait à être une 15-20aine, quoi.
Ouais,
à
faire du symbolique, quoi, ouais.
Voilà, ouais. Et puis finalement, ça se transforme en truc, non, vous sortez pas, quoi. Vous sortez pas de votre bateau, vous remontez dessus, quoi. Et les conséquences sont assez étonnantes parce qu'en fait, on se rend compte que notre action assez peu préparée finalement est plus spectaculaire qu'on l'avait prévu. En fait, un retentissement localement déjà assez important parce que t'as le président de l'association des commerçants qui fait un espèce d'happening. Je vends ma boutique. J'en ai marre de ces anti-tout qui nous pourrissent la vie économique de la ville. Soutenu par la boulangère d'en face qui avait fait plus de sandwichs et plus de pâtisseries pour l'occasion, comme si elle imaginait que les gens qui payent 7700 euros une croisière de 7 jours tout inclus préfèrent manger un jambon beurre dans sa boutique qu'une entrecôte au caviar sur le bateau. Donc voilà. Donc des trucs, des situations qu'on a, et puis les réseaux sociaux s'en mêlent. Il y a un groupe sur les réseaux sociaux douarnenistes où c'est un peu l'antichambre de l'extrême droite douarneniste qui c'est des flots d'insultes, des flots de menaces. Alors l'expression du président de l'assaut des commerçants, là, les anti-tout, ça devient il devrait mettre une marque dessus.
Ouais, copyright.
Ouais, ouais. Donc ça devient, on se transforme en l'espace de deux jours en anti-tout, en pull en bois, en pull à pisse, enfin voilà, multiples slogans, insultes assez, qui me font marrer, moi je m'en fous, mais bon. La sauce prend, en fait, ils font la com à notre place d'une certaine manière. Nous, on refuse de répondre aux commerçants parce que déjà, on est crevés, qu'en fait, on a nos vies en semaine. Aux commerçants, aux médias, je veux dire. On a nos vies en semaine, on a nos autres occupations. On refuse de communiquer. On leur répond qu'on veut pas réagir à chaud, qu'on n'est pas dans cette démarche-là. On n'est pas BFM Télé. Nous, on veut pas réagir à chaud. Que s'ils veulent des infos, on leur enverra un communiqué plus tard. Et puis, en fait, aussi, la réalité, c'est que même si on s'en fout un petit peu de ces réactions, ça reste un village, et en fait, on est content que nos visages n'apparaissent pas publiquement dans la ville comme étiqueté collectif sémaphore, parce qu'on a nos vies, et enfin, la boulangère, moi je vais chercher mon pain chez elle, quoi. Même si c'est pas bon, j'y vais, parce que c'est à côté de chez moi, j'ai pas envie de me faire insulter en allant chercher mon pain avec le petit dans la main, quoi.
Non, mais en plus, t'as pas à répondre individuellement d'une action ou de quelque chose qu'a concentré un certain nombre de personnes, et c'est quelque chose qu'ils doivent débattre collectivement, et au moins les douarnenistes parlent de ça, alors qu'avant quelque part c'était impossible d'en parler, quoi. Enfin, en tout cas, on n'en parlait pas, quoi.
C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la question des bateaux de croisière, tout le monde voit passer un bateau de croisière devant chez lui à Douarnenez durant l'été. Il y a des gens qui sont extrêmement excités. Ah, c'est un trop beau bateau, c'est super, ça valorise notre ville. La majorité des gens quand même sont putain, pourquoi il débarque chez nous ? J'ai pas envie de ça chez moi. Et quand la mairie pose cette question-là à la mairie, c'est non-retour quoi. En fait, c'est quasiment, c'est pas votre problème. Ou alors, vous inquiétez pas, c'est des petits bateaux, ils polluent pas, quoi. C'est que des petits bateaux, c'est du luxe, ça valorise. Il y a un conseiller municipal d'opposition qui a abordé ça plusieurs fois et qui s'est fait complètement envoyer bouler. Voilà. Et en fait, nous, notre action, on se rend compte que, même si c'est du débat assez stérile sur les réseaux sociaux, c'est un débat qui s'ouvre dans la ville. Alors, il y a déjà plein de débats dans la ville, et donc certains vont nous dire « Ah, vous clivez encore plus la population bon, ». Ils nous ont pas attendu pour être clivés. C'est juste que ça fait ressortir les vrais visages de certaines personnes. C'est assez intéressant, je trouve. Mm-hmm. Et là, la mairie, elle ne peut plus ne pas aborder ce sujet. Elle va être obligée de mettre les trucs publics, en fait. Elle va être obligée de justifier, de peut-être organiser un débat. J'en sais rien, elle va réussir à entourlouper. Je suis pas inquiet là-dessus, mais en fait, elle peut plus faire la fine bouche sur le sujet. Aussi, parce que la presse nationale a repris les images. France 3, le JT de France 3 National fait un dossier sur notre action, ce qui est quand même assez dingue. Le dimanche, quoi. Il y a une émission sur France 5 qui parle d'écologie le soir même, ou le dimanche soir, il parle des nouvelles formes d'action pour protéger l'environnement, il parle de notre action. Alors que nous, on a communiqué avec personne. Et c'est ça qui est aussi rigolo, de toutes les actions qu'il y a pu y avoir autour du mouvement social ces derniers temps à Quimper, à chaque fois il y a des marches, on va prévenir la presse, on envoie un truc. Et finalement, ça marche pas. Nous, on fait rien de ça, on communique pas à la presse, on n'en voit rien, et ça marche. Donc ça, c'est assez rigolo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir.
Bah, bien sûr, c'est symptomatique quand même.
Voilà. Et puis, truc intéressant, l'Association internationale des compagnies de croisière fait un communiqué, disant que c'est scandaleux, qu'il faut pas que ça se renouvelle, machin. Un organisme international qui représente les compagnies de croisière, quoi. On n'est pas dans le truc local, quoi, tu vois. C'est vraiment... Donc on se dit, putain, en fait, on leur a vraiment fait peur en bloquant 15 passagers. Ça craint, c'est super, c'est trop bien. On reçoit des mots des collectifs Stop Croisière d'Ajaccio et Marseille disant, en fait, nous, on est dans des démarches très institutionnelles depuis quelques années, pétitions, en fait, ça marche pas. Peut-être qu'il va falloir peut-être que vous nous donnez des nouvelles idées d'action. Donc c'est hyper cool d'avoir un retour comme ça. La CCI de Quimper-Cornouailles qui fait un communiqué aussi disant que notre action est scandaleuse et qu'ils sous-entendent qu'on n'a pas intérêt à recommencer. Mais pas de chance pour eux, le planning, c'est pas nous qui le faisons, quoi. Prochain bateau, le 21, c'est-à-dire hier. Prochain bateau, le Hans Théatique Spirit, j'ai un peu du mal à le prononcer. C'est un bateau qui est propriété d'une entreprise allemande, Lloyd, je sais plus trop quoi, qui est elle-même une filiale de la Royal Caribbean Company, donc la même multinationale que le précédent bateau. Donc on peut s'imaginer que le commandant de ce bateau-là est au courant qu'il y a eu une action. En plus, ça a dû tourner pas mal dans le milieu de la croisière, vu que ça a tourné via les associations de professionnels. On se dit, putain, qu'est-ce qu'on fait ? On pourra pas faire le coup de la surprise une deuxième fois.
C'est peu probable.
Voilà. On se réunit et en fait on est aussi crevés, on a nos vies, on a nos problèmes, le mouvement social, tout ça. On se dit, est-ce qu'on a vraiment les épaules pour tenir une mobilisation sur ce truc-là ? Ou en fait, par ailleurs, on a reçu énormément de messages de gens, prévenez-moi s'il y a une prochaine action, on veut y participer. Donc on se dit, potentiellement on sera pas 90, on peut être beaucoup plus. En plus ça tombe un dimanche, les jours sont dispo, un long week-end. Donc, est-ce qu'on a les épaules pour tenir ça à 3 finalement ? Bon, ça s'est un peu étoffé, on est un peu plus de 3 maintenant, mais ça devient peut-être une grosse responsabilité.
C'est ça.
De stress et tout. Et donc, en fait, on se dit, tant qu'à faire, vu qu'il y a aussi pas mal d'orgas politiques ou associations qui nous ont montré leur soutien, Europe Écologie localement, la France Insoumise, Greenpeace, Greenpeace aussi, les gens d'Extinction Rébellion aussi. On se dit, bah, en fait, on va faire un truc un peu plus soft. On organise un gros rassemblement devant un lieu emblématique de Douarnenez,
le dimanche, ouais.
le bâtiment, l'ancien bâtiment des marins, là, qui est en vente hors de prix et qui est en train de se délabrer alors qu'il manque de logement. On se dit, on va faire ça. En plus, c'est au-dessus du port, on a vu sur le port, donc si on a du monde et du bruit, des banderoles, des fumigènes, les bus nous verront. Et on appelle les orgas, en fait, à prendre en main ce rassemblement et que nous, on soit mêlés dans la masse, en fait, au milieu
et
du
puis,
reste.
Ouais, puis vous verrez bien à ce moment-là ce qui est possible de faire. Ce que tu as décrit tout à l'heure, c'était aussi le fruit d'une émulation et d'une action collective.
C'est ça, spontané,
c'est pour ça aussi que ça a marché aussi bien. Donc parfois il faut aussi laisser la possibilité au spontanéisme de s'exprimer, mais comme nous le disons souvent si bien ici, le spontanéisme, ça se prépare.
Mais complètement, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est ça qui est super cool, c'est ce côté spontané, cette émulation qui se fait sur le moment, et en fait, on se dit, il faut essayer de recréer ça, on ne sait pas si on a les épaules pour l'assumer, nous, juste avec nos petites épaules, mais on se dit, on appelle, les orgas nous rejoindre et tout, et puis en fait, ça prend, les gens, on fait ça un peu comme la dernière fois, un peu à la dernière minute, le bateau et le dimanche, se réunit le mardi d'avant, donc mardi dernier, quoi. On se dit, on acte le fait qu'on fait ce rassemblement, le mercredi, et en fait, le mardi soir, juste après la réunion, on reçoit un mot d'un copain, le bateau, l'escale à Douarnenez est annulée. La compagnie décide d'annuler cette escale et de la transférer à Brest. Et là, double victoire. On a empêché des gens de débarquer. Donc, en fait, c'est pas les gens en soi notre problème, parce qu'en fait, on n'arrivera pas à les convaincre, on s'en fout d'eux. C'est plus pour le symbole, quoi. Désolé pour leur escale. Hein. Mais le symbole a bien marché, parce que c'est des gens qui vivent beaucoup sur leur image, des entreprises qui vivent sur leur image. En fait, ils peuvent pas... Dans mon esprit, on a déjà gagné, parce que si on fait rien, en fait, dans tous les cas, ils sont obligés de mobiliser des flics au cas où on ferait quelque chose, et des touristes riches débarqués dans des cordons de CRS, c'est pas trop ce qu'ils attendent, quoi.
Non.
Donc, l'image publique de la ville et de la compagnie est quand même un peu médiocre. Voilà. Oui. Et donc, officiellement, le communiqué, pour pas reconnaître que, en fait, notre action a eu un impact, ils disent que c'est parce que y a un problème logistique et pas assez de cars pour emmener les gens à Quimper, quoi. Bon, la croisière, elle est prévue depuis plusieurs années, c'est des trucs qui se vendent un à deux ans en amont. Va pas me faire croire que le mec doré, il est pas capable de réserver quatre bus, quoi.
Ouais.
Donc en fait, c'est clairement notre action qui les fait flipper et ils décident de transférer l'escale à Brest, où en fait c'est pas une escale, c'est une escale où il y a un quai. En fait, et donc un port sécurisé avec barrière. Donc en fait, nous on communique à ce moment-là, grosse victoire, ça a un retentissement pareil, régional, voire national, sur le fait que, à cause d'une mobilisation le 6 mai, une compagnie croisière annule son escale à Douarnenez le 21. Je vous passe les détails des réseaux sociaux que j'évoquais tout à l'heure. Là, c'est un retour en force de des insultes et des menaces. Et puis là, on se dit, on va essayer de passer le relais aux Brestois. Il y a une émulation suite au mouvement social, il y a des gens assez déter. On envoie un mot à tous les Brestois qu'on connaît, disant, le bateau qui peut arriver chez nous.
Et qui sont nombreux à nous écouter.
J'espère. Le bateau qui devait arriver chez nous va arriver chez vous. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le relais? Si vous appelez à quelque chose, on se joindra à vous et on le relaie. On n'a pas envie d'appeler à leur place pour pas être hors sol, comme pourraient le faire beaucoup de collectifs. Nous, on n'a pas envie
pas
de faire ça.
Pas du tout, si tu veux parler.
Et donc, on veut pas être hors sol, donc on dit, si on vous donne toutes les infos, si vous voulez faire quelque chose, faites-le et on se joindra à vous.
Bon, on va voir si Brest, si Brest-la-Rouge est à la hauteur, quoi.
C'était hier.
C'était hier.
Le bateau est arrivé hier à Brest.
Ah, et alors ?
Et donc, en fait, ça a été repris par les deux collectifs Youth for Climate et Extinction Rébellion. Alors bon, moi, personnellement, je suis pas hyper proche d'eux, mais peu importe, c'est hyper cool qu'ils aient bien voulu se lancer dans une action sur ce sujet. Et en fait, ils ont appelé à se rassembler devant le bateau en début d'après-midi. Donc le matin, les gens ont pu débarquer du bateau à Brest. Et puis dans l'après-midi, en fait, il y a eu un petit rassemblement. Il y avait une quinzaine de personnes, mais en fait, c'est pas déconnant non plus parce que c'est aussi le symbole en fait. Et comme ces boîtes-là, elles fonctionnent sur le symbole, donc ils ont arrivé avec des banderoles et puis ont essayé de discuter ou de faire du bordel, des bruits de casseroles et tout, au moment où les croisiéristes remontaient sur le bateau en fin de journée.
D'accord.
Et il se trouve que ce jour-là, il y avait un deuxième bateau qui arrivait à Brest, plutôt en fin d'après-midi, au moment où celui qui devait arriver à Douarnenez repartait de Brest. Il y a le Aïda Mohora, là, d'une compagnie, je sais plus de quelle origine, mais donc le bateau dont je parlais tout à l'heure, avec 1300 passagers, là, qui fait de 200 mètres. Donc là, c'est plus de la compagnie charter. Et ce bateau-là arrive, et en fait... ils se sont dit maintenant qu'on est là, on a des banderoles, on est 15, c'est pas grave, on bloque les bus, quoi. Et donc ils ont bloqué les bus à la sortie du bateau. Voilà.
Ouais, pas cool.
c'est trop bien, c'est cool, tu vois.
Je crois qu'on annonce le 31 arrivée.
Une autre arrivée, donc c'est le Silver Cloud, je crois, Cloud.
Ouais. Nuage d'argent.
C'est vrai. Donc la même compagnie. Et qui fait à peu près c'est le Sister Ship, le bateau identique au Silver Wind. Il fait à peu près le même parcours. Il part du Portugal, il s'arrête à Quiberon, à Concarneau. Il fait une escale au Glénan. Alors je pense qu'il ne s'amarre pas au Glénan, mais je pense qu'il passe. Les Glénans, c'est 2 mètres d'altitude.
Oui.
Donc ça va faire un peu bizarre. Après, il s'arrête à Douarnenez, puis il va à Roscoff, puis Saint-Malo, puis après, il va à Dublin. Je crois qu'il va à Dublin. Et donc, il y a ce bateau qui arrive le 31 à Douarnenez, il s'arrête le 30 à Concarneau. On se réunit dans les jours à venir pour voir comment on peut organiser ça. On a des échos que des camarades de Concarneau sont prêts à faire quelque chose à Concarneau, en fait. Ce qui serait cool pour montrer aussi que c'est pas une problématique douarneniste, en fait. Hein. C'est une problématique qui est globale, quoi. D'ailleurs, le collectif, c'est contre les croisières à Douarnenez et ailleurs, quoi. Les croisières et leur monde.
Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission, mais on l'a très bien rempli. Sur notre petite blague et l'aspect, qu'on va dire, festif et joyeux que tu avais pu décrire, il y a quand même de très gros enjeux. De transformer justement des endroits où il y a des gens qui vivent avec une histoire, avec des moyens, avec une activité en espèce de comment dire, de folklore et de gens à visiter. Les Bretons sont pas des Indiens qu'on vient prendre en photo, quoi. Pour ceux qui s'intéresseraient à ces thématiques-là, on invite à consulter le site de l'Office de l'Antitourisme grenoblois, notamment, qui avait fait un très très gros travail de qu'est-ce que ça veut dire le tourisme dans ce monde capitaliste, mondialisé, et de culture de masse ou de tourisme à taille un peu plus humaine, comme celui qui vient d'écrire, de bourgeois. Quelque part, on voit très bien que les enjeux sont les mêmes. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir vers toi, Nicolas, pour de nouvelles aventures de la compagnie du Ponant à Douarnenez.
Bah là, c'est pas la compagnie du Ponant, le port du Ponant, bref. Mais ce qu'on espère, nous, c'est que ça va faire boule de neige, quoi.
Ok. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci.
À bientôt.
À plus. Salut.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitif sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.